Bonjour, bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Hebdocom, votre rendez-vous qui décrypte la pub, la com et les médias sur BFM Business. Très grosse émission qui nous attend aujourd'hui. Alors c'est parti pour l'épisode 2 de la saison 2.
BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch.
Au menu aujourd'hui, Happy Hour, tout le monde en parle, 93 Faubourg Saint-Honoré, salut les terriens. Tout ça revient sur Art Division, vous l'aurez compris, notre premier invité, c'est Thierry Ardisson et ça commence tout de suite. On poursuivra ensuite avec notre journaliste BFM Business, Simon Tenenbaum, qui passera en revue pour nous toutes les news d'Hebdocom. Et puis notre focus de la semaine, le nouvel iPhone 15 est de sortie. Que pensez-vous de la communication d'Apple ? On a réalisé ce sondage pour Hebdocom sur les réseaux de BFM Business et on en parle dans un instant avec nos experts. Voilà le programme, vous savez tout. Tout de suite, on retrouve notre invité. Thierry Ardisson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Dans Hebdocom, vous avez plein d'actualités. Mais d'abord, Art Division, que vous lancez cette semaine, votre chaîne à vous, en ligne, qui va reprogrammer aux horaires de diffusion d'origine vos programmes cultes, vos concepts originaux. On va pouvoir retrouver, par exemple, Happy Hour à 16h30, Tout le monde en parle à 20h, 93 Faubourg Saint-Honoré, Rive droite, Rive gauche. Le tout sur une chaîne FAST. Donc une chaîne FAST, en général, les téléspectateurs de BFM Business savent ce que c'est. C'est une chaîne de télé gratuite financée par la publicité distribuée en streaming. Là, en l'occurrence, ce sera sur Samsung TV+. Ça va commencer par Samsung TV. Vous êtes le premier animateur au monde à faire ça. Pourquoi ?
Parce que j'ai de la chance. C'est-à-dire que quand vous êtes bourré, vous avez fumé un pétard, vous avez bu un coup, vous dites... Un jour, j'aurai une chaîne où il n'y aura que mes émissions. Et puis ça arrive. Voilà. C'est beau. Franchement, c'était moins attendu. J'ai fait une chaîne sur YouTube qui s'appelle Arditube, qui marche très bien. Okay, je suis déjà très content, évidemment, parce que toutes mes émissions sont là. Mais là, quand on m'a dit ça, j'ai sauté de joie. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je prends mon portable, je vais sur Ardivision et je vois ma gueule. C'est très récompensant.
Eh bien, on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble. C'est parti pour la bande-annonce.
Voilà.
Art Division, la première chaîne de télévision consacrée à un animateur.
Bienvenue dans la Pire, le premier jeu basé sur la vie de ses candidats.
En quelle année avez-vous été élue meilleure animatrice de Belgique ?
Vous êtes emmerdé maintenant pour faire un livre en disant que la vie est belle.
Mais je vais faire des trucs plus bizarres.
Salut les terriens ! Salut les terriennes !
Et donc, vous prenez pas de drogue ?
Non, je suis déjà grisé tout seul.
Vous
voulez un sexe, votre
mère ?
C'est une proposition.
Vous voulez vous marier ?
Un amant, peut-être. Oui.
Quand tu vas dans une boîte, obligatoirement
en carré. Mais c'est à cause de mon statut de superstar, sinon. Les canards,
les canards. Chier pour y arriver.
Avec les grands yeux, t'as des yeux vicelins. Hein ?
C'est pas une drag queen, c'est une moustache.
C'est une moustache de drag queen, alors.
Art Division, c'est culte. Voilà.
Tous ces programmes, donc, à retrouver sur Samsung TV+, c'est gratuit.
Voilà.
C'est financé par la pub. Mais alors, pour bien comprendre comment on est sur BFM Business, c'est quoi le modèle économique ? Comment s'est monté le deal ? Est-ce que vous partagez les recettes avec,
oui,
Lina, avec vos coproducteurs aussi de l'époque ? Comment ça se passe ?
Oui. D'abord, Lina, on partage déjà avec Lina. Donc, Lina représente toutes les émissions de service public. Et on a fait un accord avec TF1 et M6 pour avoir les émissions que j'ai faites sur ces chaînes-là. Bon. Donc, je partage avec Lina. Après, je partage avec mes coproducteurs sur les émissions où il y en avait.
Comme Catherine Barma, par exemple.
Par exemple, avec plaisir, d'ailleurs, parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Mais à la fin, il reste rien. C'est pas du tout une ambition financière. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que c'est un métier qui est tellement éphémère. Vous faites une émission, elle part dans l'espace, immédiatement. Si aujourd'hui vous voulez regarder Coucou c'est nous ou Champs-Élysées, vous êtes obligé d'appeler Lina. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps à faire mes émissions parce que je travaillais déjà sur les invités, ensuite j'écrivais, je tournais, je montais, je mixais. J'ai fait un peu de la télé comme du cinéma. Donc le fait qu'aujourd'hui ça soit visible quelque part est extrêmement récompensant. J'ai l'impression d'avoir moins perdu ma vie, quoi.
Ouais. Et vous n'avez pas mesuré quand même combien ça peut vous rapporter ? Est-ce que vous pensez pouvoir être rentable un jour ?
Ah, mais moi, ce n'est pas mon problème que ce soit rentable ou pas. Moi, je leur donne mes émissions, je viens en parler parce que j'ai envie d'en parler. Après, vous savez, si on additionne les extraits que je vends, parce que je vends beaucoup d'extraits, évidemment, chaque fois que quelqu'un meurt, tout le monde achète des interviews que j'ai faites. Si j'additionne ça, plus Arditube et bientôt Ardivision, je sais pas, disons, c'est de l'ordre de 70 000 euros par an. C'est beaucoup, évidemment. Mais enfin, c'est rien, en fait.
En chaîne d'infos, d'actu, en continu.
Je sais pas si mon avis sur l'actu sera intéressant pour les gens. J'ai pas cette prétention.
Parmi vos autres actualités, vos prochains projets, vous organisez une soirée sur Paris Première en novembre pour les 20 ans de l'émission 93 Faubourg Saint-Honoré avec un dîner qui sera à votre nouvelle adresse cette fois, 214 rue de Rivoli, pas très loin, suivi d'un documentaire qui réunit les meilleurs moments de l'émission. Est-ce que ça vous donne envie peut-être de revenir avec cette émission de façon régulière ?
Il est certain que si je devais revenir, je préférerais revenir avec un nouveau concept. Parce que, par exemple, j'avais été viré à une époque, j'étais viré tout le temps, mais j'étais viré, j'étais revenu avec Paris Dernière, qui était réellement différent. Je me fais virer de Salut les Terriens, je reviens avec Hôtel du Temps. Donc, j'aime bien revenir en surprenant les gens. J'aime pas revenir là où j'étais. J'aime bien revenir ailleurs. Donc, si demain, j'avais une idée de concept aussi forte que le dîner ou Paris Dernière, je dis pas que je le ferais pas.
Donc, c'est pas un pilote qui a de prévu en novembre.
Non, pour une bonne raison en plus, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque où je bossais pour Paris Première, quand vous zappiez sur la télé, Paris Première était en position 5 à Paris. Donc tout le monde voyait Paris Première. C'était aussi visible que France 1 ou France 2. Aujourd'hui, il faut aller la chercher. Hein. Donc si je revenais sur Paris Première, j'exigerais que ça soit codiffusé sur M6 pour être vu. Parce qu'on a tous envie d'être vu. On aime notre travail et tout, mais notre ambition, c'est quand même d'être vu par le plus grand nombre. Et aujourd'hui, Paris Première, donc ça sera un pilote, je pense, oui.
On va terminer cette interview avec un format dont vous êtes l'inventeur, avec un questionnaire en rafale, question courte, réponse courte. Première question, si vous deviez faire un autre métier, lequel serait-il ?
Je pense que j'écrirais des livres, j'en ai écrit pas mal, et je pense que ça irait bien avec l'âge qui vient d'être avec un chat sur les genoux en train d'écrire comme ça.
Quel était le plus gros coup de ce mercato selon vous ?
C'est Ruquier. Après 22 ans de France Télé, oui.
Et quel est le mercato que vous avez eu, vous, le plus de mal à digérer dans votre vie ?
Ben moi, je me suis fait virer beaucoup. Je me suis fait virer par Patrick de Carolis parce qu'il ne voulait pas que je fasse une émission sur France 2, donc tout le monde en parle. Et en même temps, 93 Faubourg Saint-Honoré sur Paris Première. Et il m'a dit, je t'ordonne d'arrêter l'émission de Paris Première. Et je lui ai dit, va te faire voir. Et ça a été le gros coup de bol. Une semaine après, Canal Plus m'appelle et j'y ai passé 12 ans.
Audrey Crespo-Mara, justement, en trois mots.
Ben, elle a changé ma vie, voilà. Elle a changé. Non, ça fait quatre.
Changer ma vie, ça fait
changer ma vie.
Votre idéal de bonheur terrestre ?
Ben, c'est bizarrement, mais c'est de continuer à créer. Parce que quand vous avez des idées, vous ne pouvez pas vous empêcher d'en avoir. Une fois que vous avez une idée, vous avez envie de l'avoir à l'antenne. Que ce soit cinéma, que ce soit télé, etc. Donc mon idéal, ben, c'est que ça continue. Parce qu'en fait, si je ne veux pas vous dire, mon idéal, c'est d'être en Grèce, sur une île déserte, avec trois moutons. Quoi. Non. Et quand j'avais 20 ans, c'était mon idéal, ça.
Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence ?
Pour les gens qui ne savent pas, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas la culture, qui n'a pas le... Voilà, c'est...
Ils pourraient travailler.
Quand je vois des... Pardon ?
Ils pourraient travailler, ces gens-là.
Oui, oui, mais voilà, quand il y a des gens qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas été à l'école, parce qu'ils ont pas... ça me désole, voilà.
Pour l'injustice.
L'injustice, bien sûr.
Quelle qualité préférez-vous chez l'homme ?
Le courage.
Seriez-vous capable de tuer quelqu'un ?
Oui, très facilement.
Et...
Je suis d'origine italienne, voire sicilienne. Et mon biographe, dans Confession d'un baby boomer, parlait de killer scorsésien. À l'époque, j'étais vraiment méchant. Maintenant, ça va, je me suis calmé grâce à Audrey.
Est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose ?
Quel est votre 06 ?
Je l'ai déjà.
Ah bon ?
Merci beaucoup, Thierry
Ardisson,
d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc sur la chaîne YouTube, Ina Arditube, et sur Ardivision dès cette semaine. Tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news d'Hebdo.com.
Qui de l'homme ou de la machine remportera la bataille de la créativité? Question qui agite le secteur depuis l'éruption de ChatGPT et on a peut-être la réponse aujourd'hui grâce aux résultats d'une nouvelle expérience menée par deux professeurs de l'université de Pennsylvanie avec un pitch simple, donnez-moi une idée d'un nouveau produit ou service commercialisé moins de $50 à destination des étudiants de l'université. 200 propositions faites par les étudiants, 200 par ChatGPT, du panier à linge pliable ou coussin pour siège d'amphi, toutes les idées ont été évaluées par un panel et le résultat est sans appel. Près de 50% des idées de ChatGPT ont été jugées bonnes par le panel contre 40% pour celles des étudiants. Mieux, sur les 40 propositions les mieux notées, 35 ont été imaginées par la machine. Le match est plié. Ne pas utiliser l'IA pour créer et innover serait une grave erreur, concluent les auteurs de l'étude, qui suggèrent de pousser au maximum la collaboration entre l'homme et la machine. Un message reçu 5 sur 5 par la direction de Coca-Cola. Le géant d'Atlanta lance une nouvelle boisson avec ce slogan qui frappe les esprits, un Coca-Cola co-créé avec une intelligence artificielle. Il s'agit en fait d'une édition limitée de la boisson commercialisée cette semaine en Amérique du Nord. Un Coca-Cola censé avoir le goût du futur, selon le groupe. L'IA a été utilisée à la fois pour le goût et le design du packaging. Coca qui multiplie ses éditions limitées et autres collections capsules pour attirer les jeunes consommateurs. Des jeunes que Disney cherche lui aussi à séduire en innovant sur sa chaîne de sport ESPN. Elle diffusera en octobre en streaming une version alternative au couleur de Toy Story du match de football américain qui opposera les Falcons d'Atlanta aux Jaguars de Jacksonville. En direct, les joueurs seront remplacés à l'image par des personnages et tout le décor sera dans l'univers du film d'animation. Au moment où le sport en direct intéresse moins les plus jeunes, voilà une expérimentation qui a le mérite de casser les codes.
Hebdo.com sur BFM Business.
Hebdo.com, ça continue sur BFM Business. Thierry Ardisson, donc, qui lance sa chaîne Fast cette semaine. C'était notre invité en première partie d'émission. L'interview est à retrouver évidemment en replay, en podcast et sur l'appli BFM Business. Mais cette semaine, c'est aussi Apple qui lance le nouvel iPhone 15. Quelques nouveautés, bien sûr, on va y revenir. Mais c'est notre focus du jour. Et pour en parler, j'accueille nos deux experts. Marie-Virginie Klein, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Victor Bory, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Hebdo.com. La keynote de Tim Cook a donc eu lieu mardi soir et on a voulu se demander cette semaine ce qu'on pense de la com d'Apple et ce que pensent nos téléspectateurs et auditeurs de la communication d'Apple. Et alors la réponse, c'est qu'ils n'ont pas l'air très satisfaits puisque 72% d'entre eux ont trouvé que la communication d'Apple était mauvaise. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais d'abord, ma première question s'adresse à tous les deux. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que la communication d'Apple n'a pas été bonne?
Alors moi, j'ai été assez surprise par les résultats du sondage. Je ne m'attendais pas à un tel mécontentement sur la communication. Donc ma première réaction, ça a été d'être surprise parce que quand même, Apple, ils sont connus pour être les rois de la communication, notamment pour cet exercice de keynote. Hein. Ça fait plus de 15 ans qu'ils font cet exercice. Ils sont très rodés. Ils ont fait évoluer le dispositif au fur et à mesure. Et donc, je ne m'attendais pas à une telle sévérité des votants parce que malgré tous les défauts qu'on va sûrement évoquer juste après, je trouve qu'il reste quand même très fort en com.
Et donc, est-ce que toi, tu es en phase avec les votants?
Alors, en tout cas, je comprends ce qui se passe, je crois, dans la tête des votants. C'est qu'en réalité, l'Apple Mania, c'est terminé, c'est derrière nous. Apple, finalement, mis à part les innovations qu'il y a eu quand Steve Jobs présentait le premier iPhone, maintenant, Apple, c'est devenu synonyme de trois choses. C'est devenu synonyme de monopole, hein, même si c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'un produit Apple ne pouvait évoluer qu'avec d'autres produits Apple et on était un peu enfermé dans ce dispositif-là. Au début, c'était une qualité. Maintenant, c'est peut-être en train d'agacer. Le deuxième point, c'est l'argent. Hein, c'est que les produits Apple, ils coûtent quand même extrêmement cher, notamment depuis l'an dernier où ils ont passé la barre des 1000 euros le produit, cette barre très significative. C'est quand même des produits très chers pour une technologie dont on se demande parfois si elle la vaut. Et puis Apple, c'est aussi voilà le synonyme de plus en plus de la consommation de data, de la consommation de données, donc de la pollution carbone qui est provoquée par ces données. Et d'ailleurs, dans la keynote, ce qu'on a vu, c'est qu'ils en ont fait un point énorme de leur communication,
ouais, pour dire on va planter 2030,
des voilà, on va planter des forêts. Et donc je comprends cet agacement et cette sévérité des votants à l'égard de la communication d'Apple.
Victor, ton regard sur le résultat?
Alors moi j'ai une autre surprise ce matin en ouvrant les journaux et en lisant la presse, c'est que la communication d'Apple était un peu sapée en France, sachant que le ministre Chantal Barreau est intervenu pour annoncer le retrait des Apple 12, c'est-à-dire qu'au moment de la sortie de l'iPhone 15, l'iPhone 12 a été sucré.
J'ai été
pas tant surpris que ça.
Pourquoi
sur le résultat du vote. La première chose, si on analyse la communication d'Apple sur cette keynote, c'est que sur le papier tout est impeccable, quoi. C'est-à-dire que c'est la seule entreprise au monde qui peut bénéficier d'une publicité gratuite à l'échelle planétaire pour l'annonce de ses nouveaux produits. Il y a eu un engagement qui a été extraordinaire sur le réseau. Les ambassadeurs ont défendu le produit et la marque à l'annonce de la keynote. Les médias aussi ont eu un traitement qui a été mondial. En revanche, ce qu'on peut dénoter, c'est qu'il n'y a plus cette forme d'engagement, d'émotion autour de la marque. C'est vrai qu'ils se sont un peu reposés sur leur laurier, notamment si on prend l'événement lui-même, dans des secteurs comme la mode, par exemple, ils ont profité du Covid pour repenser leur événement avec plus d'immersifs, de repenser les formats, et eux ne l'ont pas fait.
On va revenir sur cette nouvelle production, cette nouvelle façon de produire la keynote que fait Apple depuis le Covid notamment. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais au tout début sur l'iPhone 12, juste pour contextualiser pour ceux qui l'auraient raté. C'est l'iPhone 12 qui a donc été retiré du marché, une décision prise car ce modèle dépasse le niveau limite des ondes émises, car ces ondes électromagnétiques pourraient être absorbées par le corps lorsqu'on utilise le portable à la main. Je ne comprends pas le timing de cette annonce de la part de Jean-Noël Barrot. Pourquoi interdire l'iPhone 12 un soir où Apple fait une keynote sur l'iPhone 15?
Je pense que c'est pour les raisons qui étaient évoquées par Marie-Virginie, pardon, c'est que le politique a pris pleinement conscience de ces enjeux de RSE et de contestation aussi du grand public et des consommateurs sur les méfaits de certains produits. On peut penser par exemple à la seule petite évolution de l'iPhone pendant cette keynote, qui est la prise USB-C. Et la prise USB-C, c'est non pas une innovation qui était voulue par Apple, mais bien
une obligation
due à une directive européenne qui elle-même fait suite à une plainte de milliers, voire de millions de consommateurs dans le monde.
Marie-Virginie.
Oui, alors.
Sur le timing de cette interdiction de l'iPhone 12, un sort de keynote.
C'est vrai qu'il est très surprenant. Il est très surprenant ce timing, mais il a l'avantage au moins de faire parler de cette décision d'interdire l'iPhone 12. Parce que bon, hors contexte, on avait choisi un autre jour, une autre semaine, un autre mois. Ça n'a pas fait vraiment mouche. Alors que là, profiter du moment où tout le monde attend les annonces d'Apple autour de ses nouveaux produits pour dire, achetez vite l'iPhone 15 parce que le 12, il émet trop d'ondes et c'est mauvais pour votre santé. C'est en fait plutôt malin de la part, ouais, de la part du ministre.
Et c'est sapé aussi une stratégie d'Apple qui reprend beaucoup de codes des marques du luxe sur l'événement, sur le produit, sur le haut de gamme et sur le fait d'être un peu has-been quand on n'a pas le dernier iPhone. Et là, en l'occurrence, il décrédibilise le dernier en supprimant un modèle précédent.
Pour revenir à la keynote, donc à cette soirée événementielle finalement, on rappelle, petit rappel rapide des nouveautés, une baisse du prix quand même, c'est quand même la bonne nouveauté de ce nouvel iPhone 15. Et après, il s'agit de la matière, du chargeur qui devient l'USB-C, le bouton latéral, quelques grammes en moins, l'appareil photo bien sûr toujours. Mais on peut se dire, en gros, c'est la même chose en un tout petit peu mieux. Est-ce que ça valait ce côté production très produit, plein la vue? Parce que, je le rappelle, Apple produit ses keynotes quelques jours avant sa diffusion depuis le Covid. Donc ça demande un budget énorme, ça se voit d'ailleurs, ça se transpire. Est-ce que ça valait le coup ce côté plein la vue pour finalement pas de changements qui vont changer notre quotidien en fait, Marie-Virginie?
C'est un petit peu déceptif. Alors quand on regarde dans le détail, quand on aime bien, on voit que tout est millimétré, il n'y a absolument aucun détail qui est laissé à côté. C'est, en termes de production, c'est quand même quelque chose d'assez exemplaire. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de la musique, il y a des témoignages, il change de lieu, etc. Il y a des zooms sur les produits, donc on rentre quasiment dans les produits, donc c'est quand même assez bien fait. Après, c'est vrai que c'est déceptif et que surtout, l'enjeu aujourd'hui d'Apple, c'est de répondre aux problèmes qui sont les siens aujourd'hui, qui sont des problèmes de business, c'est-à-dire que ce nouvel iPhone, il arrive au moment de l'IA, de l'arrivée de l'IA qui bouleverse complètement les codes de la tech, et ça, on n'a pas énormément vu la réponse qu'apportait Apple. On parlait des sujets environnementaux, donc là, ils ont répondu, mais ils ont répondu un peu à côté en plantant des forêts. Est-ce que planter une forêt, c'est la solution à la consommation de data? Et puis, il y a quand même un sujet de baisse. Oui. Il y a quand même un sujet de baisse du chiffre d'affaires très fort auquel il doit faire face pour vendre de nouveaux produits.
Ils sont extrêmement dépendants en fait sur le produit iPhone.
Oui, et puis face à la concurrence.
Il y a un contexte très très morose. Ouais, très morose, et le modèle aussi d'Apple, c'était aussi de proposer des innovations de rupture, d'embarquer avec eux public, ambassadeurs, médias, etc. Et pour ensuite valoriser le produit, pouvoir le vendre le plus cher possible. Et aujourd'hui, ils sont arrivés au bout de ce modèle. Leur seule dernière innovation de rupture, c'était le masque de réalité augmentée, le Visio Pro. Et ça, il va falloir des années pour que les usages le permettent. Donc, en attendant, si en termes d'objectifs commerciaux, cette communication est plutôt réussie, si on regarde d'un point de vue expert. En revanche, en termes de perception du public, de perception du grand public, des utilisateurs, sachant qu'on rentre précisément dans ce contexte morose, on peut penser on peut être un peu sceptique sur la réussite commerciale des prochaines années, sachant que depuis 10 ans, le chiffre d'affaires d'Apple a été multiplié, et le cours de bourse notamment a été multiplié par 10, et aujourd'hui, il risque de faire face à des difficultés économiques où la communication ne sert pas à la stratégie de la société.
Et pour rebondir sur ce que dit Victor, c'est vrai que la marque de fabrique d'Apple, c'était l'innovation, c'était toujours un coup d'avance, c'était toujours les premiers à trouver quelque chose. Là, c'est plus le cas. Bon, on a l'espèce de raz-de-marée de l'iPhone, du smartphone pliable, qui est quand même en train de prendre pas mal de parts de marché. Et aujourd'hui, ce qu'on attendra toujours d'Apple, c'est de nous montrer la voie vers l'innovation, vers toujours plus d'une innovation même responsable. Et aujourd'hui, c'est pas ce que nous a donné la keynote d'hier.
Leur proposition sur le casque Visio Plus, c'est tout simplement ce qu'a proposé Google il y a plusieurs années. Et d'ailleurs, si on reprend notre prisme communicant, c'est assez intéressant de voir comment l'annonce du keynote a été pris d'assaut par le concurrent Google, justement, pour dénoncer le manque d'innovation de la société Apple. Et ça nous fait d'ailleurs un peu penser aux méthodes de communication un peu agressives qu'a Burger King par rapport à McDonald's en raillant les évolutions du produit ou les engagements RSE ou autres, sachant qu'ils l'avaient déjà fait avant.
C'est aussi un peu une façon, c'est un peu une touche humoristique aussi.
Ils raillent la marque pour la décrédibiliser et gagner des parts de marché par l'innovation, la recherche et développement et conquérir de nouveaux marchés.
Et l'angle de raillerie, c'est vraiment le manque d'innovation. Totalement. C'est quasiment, on voit un pixel, donc qui est le téléphone de Google, parler à un iPhone, donc qui est le téléphone d'Apple, et se moquer, dire ah enfin tu passes en USB-C, et puis on voit l'iPhone épuisé par toutes les innovations technologiques de ses concurrents et donc se reposer au sauna pour essayer de reprendre.
Réussi, ouais.
C'était bien. La Google a été
plus de 60 millions de vues la vidéo en quelques jours, et on voit aussi que ça a un impact aussi sur beaucoup plus de raillerie quand on écoute un peu plus l'opinion en ligne notamment. On voit beaucoup de raillerie, ce qui n'était pas trop le cas avant autour d'Apple. Et parallèlement à ça, un manque d'engagement, même de la part des experts et des fans de la marque. Même j'écoutais vos confrères de Tech & Co sur BFM Business, ils avaient pas grand chose à dire dans la mission qui a suivi la keynote hier. Donc on voit ce décalage qui est en train de se créer entre les deux géants.
Si on devait faire un très rapide bilan sur ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut dire que Apple a réussi sa com pour le B2B et pas pour le B2C?
On peut dire que en termes d'objectifs commerciaux, c'est réussi parce qu'ils vont réussir à en vendre, le produit est léché, l'opération de communication est réussie. En revanche, en termes d'engagement émotionnel et pour conquérir de nouveaux publics, de nouveaux marchés et proposer ce qui est l'ADN de la marque, de l'innovation, c'est comme en train de s'éroder.
Et moi je dirais qu'ils ont réussi leur communication toujours parfaite, toujours rodée, etc. Mais il manque ce supplément d'âme qui parle au cœur du consommateur. consommateur qui, au cœur des gens.
Il est présent normalement.
Et qui est présent normalement.
Merci beaucoup Marie-Virginie Claire d'avoir été avec nous. Tu es conseillère en communication et fondatrice d'Iconique. Et merci Victor Bourri d'avoir été avec nous dans Hebdocom. Tu es président de Backbone Consulting. Tout de suite, on vous dévoile notre campagne préférée de la semaine. C'est la fin d'Hebdocom. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 14h sur l'antenne de BFM Business, en podcast, sur l'appli et en replay, évidemment. Et pour terminer cette émission, notre campagne préférée de la semaine, sélectionnée avec notre partenaire CB News et son concours Le Hit Parade, qui paraîtra en octobre prochain. Il s'agit d'une campagne qui met en lumière cette problématique, le cancer des testicules, qui est aujourd'hui le cancer le plus fréquent chez les jeunes adultes. C'est une campagne signée TBW à Paris pour Sérum, avec Benjamin Marshall, Faustin Clavery à la création. Très très bon week-end sur BFM Business.
Upon close examination of your photo, it appears that one of your testicles is swollen. This could be a symptom of an infection or cancer. Please consider seeing a doctor. And for more information, visit dickpicdiagnostics.com. And don't forget that sending a photo of your private parts without consent constitutes an assault.